Anelia, l'île sans soleil. À une longitude et à une latitude que nous n'avons pu exactement déterminer, existe une île assez vaste qui s'est trouvée longtemps dans d'étranges conditions climatériques. Le soleil n'y brillait jamais. De temps immémorial, un nuage gris avait couvert le ciel jusqu'aux limites de l'horizon, ne laissant passer qu'une lumière blafarde, jamais d'éclaircie, jamais de déchirure à cet immense linceul. Lorsque mai joyeux sur le fond vert de nos prairies brode en lettres d'or le nom du Créateur, là-bas tout restait dans le même état. Une maigre verdure couvrait la plaine où paissaient des fantômes de troupeaux, mais rien n'avait la force de s'épanouir et de mûrir sous ce brouillard éternel. Aussi les habitants étaient-ils hâves et rachitiques, et l'on pouvait prévoir la fin prochaine de leur race. Il existait parmi eux des traditions confuses qui parlaient d'une époque lointaine où le ciel était brillant et la terre fertile. Cela remontait bien haut, très haut, au temps où leurs premiers ancêtres avaient abordé l'île jusqu'alors déserte. Mais un cataclysme s'était produit et l'âge d'or avait disparu. Les conditions malheureuses de leur existence n'empêchaient pas les Anéliens d'être intelligents. C'étaient des êtres raisonnables, mais surtout raisonneurs. Plus leur vie était misérable, plus ils semblaient portés vers les spéculations scientifiques. C'est ainsi qu'ils se consolaient de leurs maux. Leurs historiens compulsaient sans relâche les annales, les légendes, les moindres vestiges du passé, les uns pour prouver que l'âge d'or avait existé, les autres que c'était une superstition. Leurs physiciens avaient longtemps avant nous inventé l'aérostat. Et il s'élevait dans les airs pour sonder le mystérieux nuage. Mais le nuage semblait infini en profondeur comme en surface, et les aéronautes, découragés, descendaient toujours sans avoir vu autre chose que les brouillards. Quant à la navigation, elle leur était interdite. L'île était entourée de tant de récifs, de courants et de vents contraires, que tout essai de ce genre eût été une mort certaine. Quelques audacieux s'étaient risqués sur les flots, mais n'étaient plus revenus. Aussi l'océan, avec ses sanglots, était-il, en leur langage, un synonyme de la mort, de même que ce voile toujours gris, d'où tombait sur eux, comme des pleurs, une morne et froide pluie. La grande question qui se débattait entre les savants, et même entre les gens du peuple, était celle-ci. Qu'est-ce que la lumière ? Et la dispute était si ardente qu'on avait vu plusieurs guerres civiles s'allumer entre gens d'opinions différentes. Ce qu'on avait écrit de livres et de brochures, prononcé de discours sur ce sujet, était effrayant. Hélas, tous les arguments de la dialectique, tous les efforts de l'éloquence, tout le sang répandu avait été impuissant à ouvrir le ciel et à révéler le grand secret qu'il renfermait. Trois écoles principales, sans compter une foule de doctrines particulières et de sectes, se partageaient la population d'Anelia. La première disait: la lumière vient des yeux. Cela est évident, puisqu'on voit ou qu'on ne voit pas, selon qu'on les ouvre ou qu'on les ferme. L'organisme sécrète la lumière comme il sécrète le sang, la sueur, les larmes. Chacun de nous porte en soi une source de clarté. La seconde répliquait : oui, la lumière est en nous, mais elle est aussi en toute chose. C'est une substance répandue dans l'air, dont elle est un élément essentiel et qui imprègne tous les corps et les pénètre à des degrés différents. Tout ce qui se voit est lumineux, tout porte en soi la lumière. Les deux opinions paraissaient également plausibles, mais on leur faisait une objection insoluble. Si la lumière vient des yeux, d'où vient qu'on n'y voit pas à minuit, même en ouvrant les yeux tout grands? Et si tous les objets sont lumineux, d'où vient qu'ils cessent de l'être le soir? La lumière paraît et disparaît à intervalles réguliers, indépendant de nous et des objets qui nous entourent. Elle a donc une existence séparée, indépendante, supérieure, et la régularité avec laquelle elle se montre et se cache semble indiquer qu'elle est dirigée par une intelligence et une volonté. À cela, les docteurs des deux premières écoles n'avaient rien à répondre. Un troisième système affirmait que la lumière n'existe pas plus que les ténèbres. Tout est un rêve, Les prétendus voyants ne sont que des visionnaires. La lumière n'est qu'un phénomène cérébral. À cela, il n'y avait rien à dire, sinon qu'ils étaient insensés. On ne discute pas avec des gens qui nient l'évidence de leur propre sens. Mais nous n'en finirions pas si nous voulions seulement mentionner toutes les hypothèses saugrenues inventées par l'ignorance des habitants d'Anélia. Essayons d'imaginer nous-mêmes par quoi nous remplacerions le soleil si nous ne l'avions jamais vu. Quel homme aurait pu s'en faire une idée? En face de tous ces mondes dont la multitude se révèle à nous dans les nuits étoilées, qui ne sont que l'esprit humain dans ses plus vastes et ses plus hardies conceptions, n'aurait jamais approché de la réalité. Cependant, ce peuple, toujours plus misérable, s'en allait peu à peu et toutes ses discussions savantes ou passionnées ne lui rendaient pas la vie. Un jour, pour la première fois, on vit dans l'île un étranger. Il avait, on ne sait comment, abordé ce rivage mortel, et l'on voyait bien qu'il venait de loin, car son aspect présentait un parfait contraste avec celui des Anéliens. Tous le virent avec étonnement, beaucoup avec envie, car il était si beau que leur rachitisme et leur laideur éclatèrent soudain à leurs propres yeux. Pourtant, il était simple et modeste, se laissait aborder par tous. Il voyagea dans les différentes parties de l'île, et sur son passage, la foule accourait. « D'où viens-tu ? » lui demandait-on. Et lui répondait « Je viens du pays de la lumière. » À cette parole, bien des gens disaient « Ce doit être vrai, il doit venir d'un pays meilleur que le nôtre, car où trouverait-on parmi nous un homme pareil ?» Les chefs du peuple entendirent ces propos et devinrent jaloux de l'étranger. Cependant, les docteurs se moquaient de lui. « Tu viens, dis-tu, du pays de la lumière. Mais nous y sommes. Où s'en occupe-t-on plus que chez nous ?»« Vous en parlez, leur disait-il, mais vous ne la connaissez pas. Savez-vous d'où elle vient lorsque, au matin, les ténèbres se dissipent ? Savez-vous où elle va lorsque la nuit descend sur la terre ? Vous en parlez, mais moi, je l'ai vue. Pauvres gens, le plus petit de mes compatriotes est plus savant que vous sur cette question-là. » En entendant ces paroles, les docteurs, sans distinction d'école et de secte, furent hors d'eux-mêmes. Quoi ? Toutes leurs théories ne valaient rien. Ce nouveau venu, cet intrus, avait l'audace de le leur dire. Et il devenait populaire. Son air de franchise, sa bonne mine et sa simplicité lui gagnaient tous les cœurs. Ils se consultèrent avec les chefs. « Il est temps, dirent-ils, de nous en débarrasser. » Lui continuait ses voyages, et de ville en ville, de village en village, il annonçait une bonne nouvelle. « Croyez-moi, disait-il, les nuages ne sont pas éternels. Un jour le vôtre disparaîtra. C'est toujours à la lumière que doit rester la victoire. Espérez, levez les yeux en haut, bientôt vous verrez paraître le roi du jour, et lorsqu'il brillera sur vous, vous serez transformés. Un sang nouveau courra dans vos veines, vous serez vigoureux et vos enfants le seront plus que vous. Votre terre même fera place à une terre nouvelle. Des fleurs brillantes naîtront sous vos pas, et la nuit, d'autres fleurs écloront sur vos têtes. Vos tempêtes cesseront, vous pourrez affronter l'océan et partir pour les pays lointains d'où je suis venu. » À ces paroles, beaucoup reprenaient courage. L'âge d'or allait donc revenir. Seuls les principaux refusaient de croire. « Puisque tu viens du pays de la lumière, lui dirent-ils un jour, explique-nous ce qu'elle est. » Il posait cette question pour l'embarrasser, car il ne pouvait imaginer qu'il en sût plus long qu'eux. Alors il leur expliqua les mystères du ciel. Il leur dit qu'au-dessus du grand linceul gris qui les enveloppait, roule un globe de flamme appelé le soleil, auprès duquel la terre entière n'est qu'un astre minuscule. Il leur dit que ce soleil, conduit par une main mystérieuse, marche depuis des siècles sans nombre dans l'espace sans bornes, entraînant avec lui d'autres globes dont il est la vie. Il leur parla avec autorité de ces choses, mais ils ne les comprirent point. « Un globe de feu plus grand que la terre, disaient les uns, mais il nous consumerait. Un globe autour duquel nous tournons, disaient les autres. Voilà qui est absurde, car je sens bien que le sol est immobile. » Et tous ensemble, « Tu es un imposteur, tu as voulu nous tromper. » Mais lui ne s'émut point. « Je dis vrai, répondit-il, Je ne puis en donner d'autre preuve que celle-ci. Moi-même, j'ai vu le soleil, et le soleil m'a regardé. Ne voyez-vous pas en moi les effets bénis de sa lumière? Je vis et vous êtes en train de mourir. Ah, pauvres gens, au lieu de tourner contre moi votre colère, unissez-vous pour demander à Dieu d'écarter le nuage et de vous montrer son soleil. » Quand ils l'entendirent parler ainsi, tous se levèrent pleins de rage et dirent « Il insulte notre gloire et notre pays. Il prétend nous enseigner et nous gouverner. À mort le tyran, à mort l'imposteur !» Et avec la complicité du peuple, toujours mobile dans ses sentiments, ils le traînèrent hors de la ville et le tuèrent sur un coteau. Cependant, tous les habitants d'Anélia ne furent pas meurtriers. Beaucoup avaient aimé l'étranger et, sans les comprendre, avaient reçu avec joie ses paroles. Ceux-là pleurèrent sa mort pendant 3 jours. Un matin, ils se mirent en route pour aller visiter sa tombe à peine fermée. Ô prodige ! Tandis qu'ils y allaient, c'était l'heure où la nuit se retire devant les blanches lueurs de l'aube, ils aperçurent, s'élevant au-dessus de la colline, un orbe glorieux, qui couvrit de sa splendeur le sépulcre et le lieu du supplice, et toutes les campagnes à perte de vue. Pour la première fois, le soleil avait lui sur l'île maudite. Cela ne dura qu'un instant, mais ils gardèrent dans les yeux la sublime clarté qu'ils avaient entrevue. Ce premier rayon laissa sur leur front une auréole. Ils virent dans cette apparition fugitive la promesse du jour définitif. Ils l'annoncèrent à leurs compatriotes, et depuis lors, on voit chaque matin une multitude toujours plus nombreuse lever les yeux au ciel pour attendre le roi du jour. Auditeur, cette île, c'est la terre. Ce nuage, c'est le péché qui nous cache le ciel. Le soleil absent dont nous ne recevons qu'indirectement la lumière, c'est Dieu. Dieu, on le discute, on le nie parce qu'on ne le voit pas. Et faute de le voir, les hommes meurent, tout savants qu'ils sont. Car comme un corps ne vit pas sans soleil, un esprit ne vit pas sans Dieu. Et l'étranger, venu du pays de la lumière, qui est-il? C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre de la part de Dieu. Que dis-je? Il est Dieu lui-même, la lumière éternelle qui était avant toute chose et par qui toutes choses ont été faites. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cette lumière a éclaté à tous les regards non prévenus, quand le Christ, déchirant le voile, est mort sur la croix pour le péché du monde, quand il est ressuscité pour notre justification. Car c'est alors que Dieu s'est révélé dans sa justice et dans son amour. C'est là que tout homme a pu voir les perfections divines que la nature ne nous révèle pas. Sa sainteté parfaite et sa miséricorde infinie. La résurrection du Christ, c'est le premier rayon du jour éternel. Ce n'est pas encore le soleil apparaissant dans toute sa gloire, mais c'est la promesse et la garantie de cette apparition. Ah, lorsque se lèvera ce soleil de justice, ayons les yeux fixés en haut pour l'attendre et pour l'adorer.